Bonjour à toutes et à tous, ici Louis Bertrand pour RDIWA. Je suis avec Jérôme Munoz de la Confédération Paysanne qui est venu pour la troisième fois à la radio, cette fois-ci nous parler d'un sujet d'actualité toujours brûlant, à savoir la politique du gouvernement pour le moins ambiguë en matière d'OGM. Bonjour Jérôme.
Bonjour Louis.
Alors donc moi je suis un néophyte, de quoi s'agit-il ?
Eh bien, on est toujours dans le sujet des OGM, toujours le maïs MON 810 pour lequel le moratoire a été cassé par le Conseil d'État et la Cour de justice européenne. J'étais déjà venu en parler. Et donc là, en tant que Confédération paysanne, on dénonce des pratiques gouvernementales qui sont pas claires et qui sont de l'ordre du double langage et que l'on trouve cela intolérable. Donc si je suis là aujourd'hui, c'est parce que notre structure départementale a produit un communiqué de presse qu'elle essaye de faire paraître dans la presse au plus large. La radio ici l'a reçu et donc voilà, donc j'étais invité à venir en causer. Donc en fait, la situation elle est très simple. Courant janvier, j'étais venu vous expliquer qu'il y avait eu des actions Monsanto à Bron, à Monsanto à Trèbes dans l'Aude et que suite à ces actions, la ministre de l'écologie avait engagé la France à reprendre la clause de sauvegarde, donc ça veut dire mettre un moratoire sur le maïs MON 810 de façon à ce qu'il ne soit pas semé. Très bien, on se dit, on est nous favorables à ce que justement il n'y ait pas d'OGM parce qu'on sait que scientifiquement on peut apporter la preuve comme quoi il y a de périls en la demeure et pour les abeilles et pour l'agriculture.
Dissémination.
Et voilà, par pollinisation croisée, dissémination dans les champs, donc voilà. Donc on se dit, ben c'est très bien, le gouvernement s'engage, la ministre s'engage. Et donc ça, c'était fin janvier. Et début février, on apprend que Bruno Le Maire, ministre de l'Agriculture, a notifié à l'Europe qu'il avait déposé un projet d'arrêté qui organise la coexistence entre les cultures OGM et non OGM. Voilà. Alors, quand on étudie un peu les démarches que cela engage, en décortiquant tout ça, on peut élaborer un calendrier. C'est-à-dire que la ministre de l'écologie a déclaré d'activer la clause de sauvegarde pas trop tôt, de façon à ce que ce soit costaud et que l'Europe ne le casse pas cet arrêté. Dans le même temps, l'AGPM, qui est l'association des producteurs de maïs, qui a un gros lobby FNSEA, hein, disons-le, de la semence maïs, hein, a dit, de toute façon, nous, si le projet de clause de sauvegarde est mis en avant par Madame la Ministre, nous l'étudierons à 99%, nous l'attaquerons. Donc, comme la France n'a pas vraiment d'argument nouveau par rapport à l'ancien moratoire qui a été cassé, il y a de fortes chances, et c'est même plus que probable, que cette nouvelle clause de sauvegarde sera cassée. Le temps d'étude dure environ 2 mois. Nathalie Kosciusko-Morizet a dit « on va prendre la clause de sauvegarde début mars, de façon à ce qu'il ne puisse pas y avoir de semis ». Si ça prend 2 mois, on arrive au 1er mai. Dans le même temps, Bruno Le Maire dépose le projet d'arrêté et, grosso modo, le temps d'étude et pour arriver à une inscription au journal officiel et à ce que l'arrêté soit valide, c'est 3 mois. Donc on arrive aussi au 1er mai. Et le 1er mai, nous sommes en plein dans les 2 tours des présidentielles. Donc là, il y aura effectivement une effervescence monumentale sur cet enjeu des élections. Et les OGM vont passer plus ou moins à la trappe. Et donc là, les pro-OGM se frottent les mains en disant « D'un côté, nous savons que la clause de sauvegarde, on peut avoir gain de cause pour la faire casser. Et de l'autre côté, dans le même temps, nous savons aussi que le projet d'arrêté sur la coexistence sera mis en place. Donc, nous serons au 1er mai. Si jamais certains agriculteurs auront, avant le 1er mai ou avant que tout cet imbroglio ne se soit dénoué, semé, ça va être très difficile de prouver que les agriculteurs auront semé avant que la clause de sauvegarde ne soit cassée ou que l'arrêté ne soit pris. Et au 1er mai, il est encore temps de semer du maïs. Donc ça veut dire que là, on dénonce véritablement une manœuvre électoraliste qui est scandaleuse de la part du gouvernement en place. D'un côté, on soigne l'électorat qui est contre les OGM en disant « on va prendre une clause de sauvegarde ». Donc ne vous inquiétez pas. Et de l'autre côté, on rassure le gros lobby de la FNSEA et des producteurs de maïs en disant « mais voilà, tout est entre nos mains, on va mettre un arrêté, vous allez pouvoir semer, vous inquiétez pas ». Et ça, eh ben, on n'en parle pas. Alors nous, à la Confédération Paysanne, on veut dénoncer, au-delà de la question des OGM, une question beaucoup plus politique qui est que aujourd'hui en France, les gouvernements se foutent de la gueule du monde.
Moi, ce que je comprends pas, c'est qu'effectivement, on n'arrive pas à percevoir une politique bien définie. Ont-ils véritablement pris conscience de la capacité de danger apportée par les OGM, le principe de précaution est-il appliqué, oui ou non ?
Je ne sais pas s'ils en sont conscients, mais en tous les cas, ils ne tiennent pas compte des avis qu'on leur apporte. Et notamment, dans la démarche que l'on dénonce aussi, il y a un organisme qui existe depuis un petit moment, qui est en lien avec le Haut Conseil des biotechnologies, qui lui est né suite au Grenelle de l'environnement, et qui est un Haut Conseil scientifique qui étudie les risques justement au niveau scientifique et qui apporte des données pour évaluer les risques qu'il peut y avoir à travers les OGM. Et dans ce haut conseil, il y a le Conseil économique, éthique et social qui est un groupe pluraliste de tous les horizons et qui est là pour conseiller le gouvernement. Ce Conseil économique, éthique et social, avec le Haut Conseil des biotechnologies, ont émis des avis et donné des arguments qui vont dans le sens de dire « attention, il y a véritablement danger ». Mais le gouvernement n'en tient pas compte. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, par rapport à cela, alors il y a deux choses. Il y a d'une, au sein du Conseil économique, éthique et social, les pro-OGM, pour mettre la pression et essayer de décrédibiliser cet organisme, ont démissionné en disant qu'il était intolérable d'entendre ce qui était dit et notamment le fait que la coexistence entre pro-OGM et anti-OGM et opposants n'était plus possible au sein de cet organisme. Donc là, c'est un coup d'esbrouf pour essayer de décrédibiliser l'organisme en disant qu'il est partial, alors que non. Et d'un autre côté, par rapport à ce qui est émis au sein du Haut Conseil des biotechnologies, Bruno Le Maire, dans son projet d'arrêté qui organise la coexistence, ne tient pas compte des avis qui sont émis et se base sur les directives européennes qui ont été mises en place concernant l'étiquetage. Voilà. Donc, c'est-à-dire que le Haut Conseil des biotechnologies dit le seuil de détection est de 0,1%.
De quoi ?
D'OGM.
C'est 0,1% dans quoi ? Dans l'air ? Dans un centimètre cube d'air ? Dans, je sais pas.
Dans la plante. Dans la plante. Par exemple, dans une plante qui est, si on fait une étude, une plante, un pollen ou voilà, du moment qu'on trouve une trace et qu'on arrive à 0,1%, ça veut dire qu'il y a eu contamination et que c'est à partir de là que l'on doit établir des règles. Or, monsieur Bruno Le Maire, c'est basé sur la règle de l'étiquetage et qui dit on est obligé d'étiqueter un produit contenant des OGM à partir du moment où il en contient plus de 0,9%. Mmh. En deçà, on n'est pas obligé. Voilà. Donc ça veut dire que derrière, ça pose un gros problème. Sachant que pour ce maïs spécifiquement, l'Europe a décrété, parce que Monsanto n'a fait qu'une demande de validation pour la consommation animale de ce maïs et non pas pour la consommation humaine, donc il n'y a pas d'évaluation pour cela, il n'y a pas eu de demande d'autorisation, du fait que ce maïs n'est autorisé que pour la consommation animale, s'il y a des contaminations vis-à-vis notamment des apiculteurs dans le pollen, eh bien les apiculteurs ne pourront pas commercialiser leur miel. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le gouvernement hypothèque le métier d'apiculteur et est en train de mettre aussi en péril le cheptel qui représente 80% des pollinisateurs par rapport aux plantes.
Sachant que si les vaches sont affectées par les OGM, et nous qui mangeons, enfin moi je mange pas de steak haché, mais enfin on sait jamais, il y a des gens qui peuvent en manger, pourrait l'être par la suite, hein. Faut pas être complètement ignorant de la chaîne alimentaire, quoi.
Bah exactement, surtout que d'autant plus ces choses-là, sans faire de recherche spécifiquement sur les OGM, des chercheurs chinois ont prouvé que ce que l'on mange peut passer dans notre génome. C'est-à-dire que dans l'ADN, pour coder des informations, pour synthétiser des protéines et faire que notre organisme vive, les promoteurs de ces ADN, c'est les ARN, et c'est eux qui envoient les informations. Eh bien, ils ont retrouvé des ARN du riz consommé par des humains. Donc ça veut dire que si effectivement un animal mange un produit OGM, ça veut dire que les gènes modifiés peuvent se retrouver dans cet organisme-là, et si nous consommons la viande de ces animaux qui ont consommé des OGM, peut être transmise. Et là, par contre, on est dans un flou total. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'études plus poussées que celle-ci, qui a été faite mais sans rechercher les OGM, mais qui sert la cause en fait, hein, au niveau scientifique. Voilà. Donc on a aujourd'hui des données scientifiques et des sonnettes d'alarme qui sont tirées de part et d'autre par des scientifiques et de par le monde, et on a d'autres exemples aussi sur les méfaits des OGM. Hein, des OGM bien souvent sont soit tolérants des herbicides, soit fabricants d'herbicides. Et là dernièrement, on a des tas d'études qui prouvent que et les herbicides et les pesticides en général sont toxiques et pour l'environnement, pour les organismes vivants, et aussi que les OGM qui sont tolérants aux fabricants des herbicides vont dans une progression empirique. Hein. Le soja Roundup Ready, soi-disant, on devait baisser la quantité d'herbicides utilisés. Or, aujourd'hui, les doses augmentent et on sait qu'on n'a pas vraiment d'intérêt, si ce n'est économique, pour Monsanto.
Voilà.
C'est clair. Quoi.
C'est ce qui est le plus dérangeant dans cette histoire quand on parle de l'OGM, c'est qu'effectivement, il n'y a absolument aucun recul ni d'études scientifiques à long terme qui montrent qu'est-ce qu'on va devenir, nous, enfin toute la chaîne alimentaire, suite aux manipulations génétiques dans 20, 30, 40, 50 ans. On va peut-être devenir gogol ou bizarre.
Ou peut-être qu'on aura des nouvelles maladies très virulentes du type cancer ou sida, des choses que l'on pourra pas soigner et qui seront la cause. Mais ça, on le sait pas et on joue avec ça. Quoi. Mm-hmm. C'est dangereux. Ça.
Ah, je diverge un peu, mais c'est un petit peu pour marquer cette dialectique entre les fabricants de produits qui, eux, ont un tout intérêt à faire passer en force, des fois, leurs produits. Et puis, le principe de précaution. J'ai entendu dire, en ce qui concerne un certain nombre de médicaments, avec les scandales du Mediator, etc., on s'est aperçu qu'il y avait une collusion d'intérêts au sein de l'AFSAP, etc. Et donc, apparemment, sur les 10 dernières années, il y aurait entre 10 à 20% des médicaments qui auraient été mis sur le marché dans cette période. On ne sait pas très bien ce que ces nouveaux médicaments vont nous faire dans 10, 15, 20 ans. En fait, on n'en sait rien. Il y a vraiment une volonté de promouvoir les produits au détriment de la sécurité quand même.
Oui, 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 tu mets le doigt sur quelque chose d'important qui doit être dit et redit, mais même, voilà, c'est que aujourd'hui, les études qui sont faites pour les demandes d'autorisation de mise en marché des OGM sont étudiées en laboratoire sur des rats sur 90 jours. Et les pesticides, les médicaments, c'est bien souvent 24 mois avant. Il y a bien un gros souci parce que concernant les plantes OGM dont on demande des autorisations, bien souvent, elles sont productrices d'un herbicide ou d'un insecticide, ou tolérante. Donc, ça veut bien dire que si d'un côté, les produits qu'on utilise en agriculture, ils sont ce qu'ils sont, mais s'ils ont 24 mois minimum d'études avant d'avoir une autorisation de mise en marché, pourquoi, d'un autre côté, une plante qui produirait un herbicide ou un insecticide de la même manière, c'est-à-dire qui produirait la même molécule, ne devrait-il bénéficier que de 90 jours d'études sur des rats? Et sachant qu'en plus de ça, on a aussi des contre-expertises, notamment de Jacques-Éric Serralini, qui est un chercheur, et qui a mis en avant des études contradictoires par rapport à celles de Monsanto sur un autre maïs, le MON 863. Monsanto dit qu'il n'y a pas de problème, et Jacques Serralini démontre que les rats qui consomment ce maïs-là ont des problèmes hépatiques et des problèmes rénaux. Il y a des déformations, des dysfonctionnements, des organes vitaux. Donc là, on a des éléments qui pourraient permettre au gouvernement de dire « Non mais attendez, là, on joue avec le feu, on est comme un enfant à qui on dit « Touche pas le poil » et puis ben, évidemment, pour tester pourquoi on lui dit ça, il va le toucher. » quoi. Et derrière, moi, ce que je voudrais aussi rajouter sur le fait qu'il ne faut pas se laisser leurrer par le discours aujourd'hui des promoteurs des OGM. C'est-à-dire que ce que l'on dénonce, ce que je disais tout à l'heure par rapport au Conseil économique, éthique et social, les démissions de la FNSEA, qui est le syndicat dit majoritaire, le GNIS, qui représente les semenciers, qui est le groupement national interprofessionnel des semences et plants, et aussi l'ANIA, qui est les représentants de l'agroalimentaire, il ne faut pas se laisser leurrer par ce qu'ils disent et par ce qu'ils font, parce qu'aujourd'hui, ils sont en train de s'accaparer un discours qui dit que nous, les personnes qui lançons des alertes et qui alertons la population et qui essayons d'interpeller les hommes politiques pour prendre d'autres décisions en matière d'OGM, c'est-à-dire de ne pas en avoir en plein champ, sont en train de nous montrer du doigt comme étant des personnes qui veulent opposer les agriculteurs entre eux. Et ça, je dément formellement ce truc. Parce que aujourd'hui, on essaie, nous, dans les campagnes, au contraire, de fédérer les gens autour des idées. Et là, on a la preuve et on a un syndicat qui se dit majoritaire parce qu'il est partout depuis toujours et qu'il a un fonctionnement très institutionnel, qui est représenté par des personnes très charismatiques et pour la plupart des gens de la base suivent par habitude. Voilà. Et donc, on a des gens qui ont beaucoup de moyens pour faire passer de faux messages et pour nous montrer, nous pointer du doigt comme étant des gens qui veulent systématiquement opposer et mettre le feu dans les campagnes. Or, c'est totalement, totalement l'inverse, quoi. Mais en tous les cas, moi, je dis qu'il ne faut pas se laisser leurrer, il ne faut pas s'arrêter aux déclarations qui peuvent être faites par les responsables des promoteurs des OGM. Il faut aller au-delà, chercher l'information et comprendre un peu d'où vient ce perpétuel conflit et quel fonctionnement ont telle et telle personne au sein de quels organismes. Par exemple, le président de la FNSEA aujourd'hui, c'est quand même le numéro un de Sophie Protéol, qui est une grosse entreprise industrielle qui joue sur plusieurs tableaux, notamment la firme semencière, donc voilà, un gros céréalier, un énorme céréalier, et qui en plus de ça joue aussi sur le donc c'est le sueur, hein, pour pas citer, désolé, je fais de la pub, mais et aussi très fortement impliqué dans les agrocarburants, que l'on peut aussi appeler nécrocarburants. Enfin, là aussi, c'est pareil, on aurait toute une émission, on pourrait y consacrer plusieurs heures, je crois, à ce sujet-là. Voilà, mais je vais m'arrêter là pour l'instant.
Bien, bah, Jérôme, je te propose d'écouter une petite chanson des Little Rabbits qui s'appelle « Le blé dans les fouilles ».
dans les fouilles. Trop de blé dans les fouilles. Si ça continue, tu ne me reverras plus. Vu le blé dans mes fouilles. Tout ce blé dans mes fouilles. Le reste, je m'en fouille. Non, tu ne m'achèteras plus tes reproches. Moi, j'en ai bu. Pousse le blé dans mes fouilles. Fouille, 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 fouille. Mets ta main dans mes fouilles. Tu fouines et tu farfouilles. T'es regardé, abusé. Facile de t'épater. Vu le blé dans mes fouilles. M'aimeras-tu sans mes fouilles? Tu ris, tu fais l'andouillard. J'en ai perdu la moitié, le reste s'en est allé. J'ai vu le trou dans mes fouilles. Fouille, 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 fouille.
Vous écoutez RDIWA sur 107.5 FM et nous sommes en compagnie de Jérôme Munoz de la Confédération Paysanne qui est venu nous parler, entre autres, des altermoiements du gouvernement en matière d'OGM. T'avais autre chose à dire, non ?
Oui, je voulais juste faire un petit rappel. Je suis venu à la radio pour annoncer, il y a quelque temps, la tenue d'un procès à Valence de Christian et Martin. Voilà, donc le procès a eu lieu le 26 janvier. Le délibéré est prévu pour le 21 février. Il faut savoir que ce procès, dans son déroulé, a été fortement marqué par une connotation politique. C'est-à-dire qu'il a été traité vraiment comme étant un procès à l'encontre de la Confédération Paysanne et non pas à l'encontre d'une personne qui aurait soi-disant mis entrave à un contrôle sanitaire, parce que le contrôle a pu se faire, il n'y a eu aucune entrave, voilà. Mais donc la procureure, le jour de ce procès, a vraiment étayé sa plaidoirie sur un procès d'intention syndicale. Donc on est aujourd'hui dans le département face à un procès qui a pris une tournure politique et qui n'a plus aucun fondement, qui n'a pas de fondement lié aux règles sanitaires et aux contestations que l'on peut mettre en avant.
À savoir un cas humain d'un agriculteur dont la carrière était trop avancée pour se permettre de faire des investissements en matière de santé et d'hygiène dans son installation.
Oui, voilà, c'est ça. C'est toute une série d'événements qui a fait que Christian a été malade, donc il pouvait pas mettre en place et en œuvre les aménagements qu'on lui demandait. Et d'un autre côté, c'est des aménagements qui sont quand même assez démesurés. Nous, ce que l'on demande, c'est d'avoir une obligation de résultat et non pas une obligation de moyens. Or là, aujourd'hui, les règles qui sont mises en avant obligent à mettre des moyens, quoi, et des moyens démesurés, des réserves d'eau de X mètres cubes qui sont ce serait mettre en œuvre des chantiers pharaoniques, quoi. Voilà, et puis là, pour le cas de Christian, il y a eu plusieurs événements qui, un jour, un contrôleur venait et bon, un petit bungalow pouvait faire office d'un sas tampon sanitaire, voilà. La fois d'après, donc, le bungalow est installé. Ah ben non, mais c'est pas bon ça, il faut faire un truc, il faut faire ci, il faut faire ça. Enfin, il y a quand même des règles qui sont... Alors nous, on n'est pas opposé au fait que les élevages doivent être sécurisés, puisque derrière, il y a quand même des produits alimentaires qui sont distribués au grand public, donc on n'est pas là pour... Voilà.
Effectivement, est-ce que le fait que la Confédération Paysanne se soit emparée du cas de cet agriculteur, n'était-ce point inéluctable que ce procès devienne politisé ?
Je crois qu'au niveau du département... Du fait que la Drôme fait partie d'un des départements phares en matière de production de volailles et qu'il y a effectivement des risques sanitaires liés à cet élevage qui sont plus importants que pour d'autres, le département, à travers le préfet et sans doute des directives venant du ministère, font que ils durcissent le dialogue entre les agriculteurs, quoi, vis-à-vis des éleveurs. Après, je pense que là, on a un gros problème en France, c'est que l'action syndicale, bientôt, et ça je le crains, les actions syndicales vont bientôt être qualifiées de terrorisme si on continue sur cette voie-là. Parce que si pour dénoncer, il faut aller poser son cul sur une chaise dans un bureau et mettre son cul dans un mobilier en cuir, discuter gentiment en disant oui, mais vous comprenez, mais enfin, voilà. À un moment donné, non. Les choses, quand elles sont plus entendables et plus entendues, eh ben, il faut passer à une manière un peu supérieure. Et c'est le rôle d'un syndicat. Et ça, moi, je crois qu'aujourd'hui, on est vraiment confronté à...
deux mondes qui s'ignorent et qui n'arrivent plus à se parler.
Ah oui, complètement, ouais.
C'est un peu triste.
Et dont un qui sait qu'il a le pouvoir et donc raison. Et qui veut l'affirmer fortement en mettant des grosses claques, quoi. Mais le problème, c'est que là, il se gourre, quoi. Nous, on sera toujours là, comme pour les OGM, quoi. On veut pas lâcher l'affaire parce qu'on sait pertinemment qu'on est dans notre droit, quoi. Et l'autre information, on fait une petite transition, on peut pas à peine passer trop longtemps. L'autre information, elle est très très brève, c'est concernant j'en avais parlé aussi, d'un colloque fruits et légumes qui va se tenir dans la Drôme à Romans au lycée horticole les 21 et 22 mars prochains. Donc les agriculteurs de cette filière ou voulant en faire partie prochainement, en projet, ou voilà, qui seraient intéressés pour participer à ce colloque, les inscriptions sont ouvertes. Dorénavant, en contactant donc soit la Confédération paysanne de la Drôme, en téléphonant au 04 75 25 21 72, ou par mail à tout en minuscule drôme@confédérationpaysanne.fr, ou alors directement en passant par la structure nationale en envoyant un mail à contact@confédérationpaysanne.fr. J'ai pas par contre sous les yeux le détail, mais grosso modo, c'est en vue de la prochaine PAC et par rapport au donc la prochaine politique agricole commune qui va être mise en place, les changements que ça va occasionner et la problématique qu'il y a actuellement qui est due à une crise conjoncturelle dans la filière fruits et légumes. Voilà, l'envie de rassembler à la fois les producteurs organisés, c'est-à-dire ceux qui sont adhérents à des coopératives et qui livrent à des structures qui s'occupent de la commercialisation et les producteurs qui sont à ce qu'on appelle en vente directe. Donc, qui ont leur circuit, d'arriver à les rassembler et à faire en sorte que ces deux mondes qui pourraient de l'intérieur paraître différents, mais très très liés et fortement complémentaires à mon sens, puissent se rencontrer, réfléchir ensemble pour avancer vers des solutions dans cette filière.
Bah merci Jérôme d'être passé, de nous relayer un petit peu tes combats. Alors je rappelle à nos auditeurs que si Jérôme parle souvent à la radio, c'est parce qu'il a envie, donc il vient, il nous téléphone et il vient relayer ses informations. Si d'aventure des gens n'étaient pas d'accord avec les propos de Jérôme et donc de la Confédération Paysanne, vous êtes tellement les bienvenus pour venir exprimer votre opinion sur les sujets dont Jérôme s'est fait un petit peu le héros aujourd'hui. Donc merci à tous de nous avoir écoutés et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir Jérôme.
Au revoir Louis, merci.